Avant la domestication de l'électricité, il existait une première forme de télégraphe optique créée par Claude Chappe. Le télégraphe Chappe était constitué d'un réseau de sémaphores, d'immenses tours perchées sur des points hauts, disposés à la vue de leurs voisins immédiats. Ces sémaphores étaient surmontés d'une perche principale appelée régulateur et deux bras articulés appelés indicateurs. En fonction des angles que prenaient les bras, il était possible d'encoder 92 symboles différents. Le message était transmis de ville en ville en étant relayé par ces sémaphores. La première ligne qui assurait les communications entre Paris et Lille, soit 200 km, utilisait une quinzaine de ces relais en 1791. Le réseau fut baptisé Télégraphe Chappe, pas uniquement en référence à son inventeur Claude Chappe, mais aussi à son frère politicien Ignace, député à l'Assemblée nationale, qui a un peu poussé l'invention de son frère pour que l'État paie le prix fort de l'usage exclusif. Comment ça, conflit d'intérêts ? Ah, reconnaissez au moins que le système est très rapide. La vitesse de transmission est stupéfiante. En 1794, Paris fut informé de la victoire sur les Autrichiens à Condé dans le Nord en moins d'une heure. Même avec les chevaux les plus rapides, il aurait fallu au moins 6 heures pour transmettre l'information. Très vite, le télégraphe Chappe fut utilisé pour la transmission d'ordres militaires administratifs et de dépêches d'information à destination des préfectures. Napoléon consolida le réseau et en fit un des outils de gouvernance, renforçant le rôle central de Paris dans une politique jacobiniste. En 1824, Ignace Chappe voulait ouvrir son usage au domaine commercial, mais les milieux d'affaires n'étaient pas vraiment chauds et y opposèrent une certaine résistance. Eh oui, on avait déjà des grèves de diligence qui bloquaient les voies rapides. À l'époque, il existait en France des bourses régionales où on pouvait spéculer sur les valeurs en journée avant de subir une correction en fonction des échanges tenus au Palais Broignard à Paris. Or, en bourse, celui qui est informé le plus vite a un avantage et peut donc vendre ou acheter des valeurs en sachant la tendance qui sera annoncée dans quelques heures. Encore de nos jours, dans le trading, tout est dans la vitesse de transmission de l'information, mais il faudra en reparler une autre fois. Revenons au 19e siècle. François et Joseph Blanc, deux frères jumeaux spéculateurs de la place de Bordeaux, se sont spécialisés dans les bons du trésor. Ils conviennent très vite qu'il faut connaître, avant leurs concurrents, les cours de Paris afin d'assurer une position gagnante. En fait, ils n'ont pas besoin de connaître les cours dans le détail, mais uniquement la tendance, soit haussière, soit baissière du marché, et de connaître bien avant que commence à être transmis le bulletin officiel des cours de la bourse, arrivant en général par calèche, donc plus d'un jour après. Si des collègues à eux utilisaient déjà la technologie du pigeon voyageur, notamment les Rothschild, celle-ci se montrait aléatoire et bien moins rapide que ce qu'avaient en tête les frères Blanc, la toute nouvelle ligne de télégraphe Chappe qui relie Bordeaux à Paris. Mais son usage reste exclusif à l'État. Pour y accéder, les deux frères vont corrompre un fonctionnaire manipulateur du télégraphe. Ce complice, à tour, va glisser une coquille volontaire dans un message normal, n'importe lequel, coquille qui corrige aussitôt grâce à un symbole de contrôle de l'alphabet Chappe signifiant « efface le précédent caractère ». Ouais, le bon vieux backspace. Pendant ce temps, un ex-opérateur télégraphique à la retraite observait toute la journée, à la longue vue, la tour de Bordeaux pour repérer l'anomalie, afin d'annoncer la tendance téganographiée aux deux frangins. Les messages transmis ne sont pas altérés à la sortie du réseau Chappe, quel que soit l'opérateur qui transcrivait les messages reçus. Bref, c'est blanc-bonnet et bonnet-blanc. Un simple caractère permet aux frères Blanc de gagner quelques heures sur les autres courtiers. Leur astuce fut mise en place en 1834 et passa inaperçue pendant 2 ans, jusqu'à ce que Guibou, le complice tourangeau qui ajoutait les messages, tombe malade. L'homme expliqua la combine à un collègue dans l'espoir qu'il prenne la suite.
Plantage.
Son copain était un fonctionnaire honnête. Scandale ! Procès ! Devant le tribunal, François et Joseph Blanc reconnurent, à la barre, que le procédé était immoral. Mais comme tous leurs concurrents cherchaient eux aussi à avoir l'information de plus en plus vite, impossible de démontrer qu'ils commettaient un vrai tort envers les autres investisseurs. L'agent public corrompu fut poursuivi, mais les deux frères Blancs furent relâchés et blanchis. Faute de loi qui interdisent à un particulier de recevoir des informations par le télégraphe. Un outil réparé en 1837 avec la loi sur le monopole public des télécommunications. Les frères Blancs firent carrière dans les jeux de cartes. Ils changèrent d'échelle en créant un cercle de jeu dans une des galeries du Palais Royal, lequel sera fermé en 1838 avec la première loi qui réglementa les jeux de hasard. Oh, décidément! Ils continuèrent néanmoins avec cette carte à l'étranger. Ainsi, ils proposèrent à des petits états de redresser leurs finances en prélevant une taxe sur leur maison de jeu. C'est ainsi qu'ils montent des casinos au Luxembourg et Hambourg avec la bénédiction des autorités locales. Louis meurt en 1852, son frère François continue les affaires en solo. Il établit le casino de Monaco sur un appel d'offres, urbanisa le quartier de Monte-Carlo et devint le premier président de la toute-puissante Société des Bains de Mer. Mais l'histoire de la principauté n'est pas la principale. Pendant ce temps, en France, le télégraphe électrique commença à être déployé en 1844. Le télégraphe Chappe ne survécut qu'une dizaine d'années à sa concurrence. D'ailleurs, j'aimerais pas décevoir les édiles de Toulouse, mais la ligne Bordeaux-Toulouse n'a tenu que 10 ans à transmettre ses infos à la vitesse du TGV. Quant à l'affaire des messages cachés dans le télégraphe Chappe, elle entrera dans la postérité quand Alexandre Dumas s'en inspira pour une des péripéties de son roman, Le Comte de Monte-Cristo.